Jesus Christus.
Le monde réagit à la décision de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien. Entre colère et soutien, les alliances se confortent, nous le verrons, côté palestinien. Reportage dans ce journal auprès des déplacés de la guerre au Liban, soit un habitant sur cinq. Nous irons dans un cinéma béroutin devenu refuge pour oublier les bombes. Les chancelleries rivent aussi leur regard vers le Kremlin au lendemain du tir de missiles balistiques russes envoyé vers l'Ukraine. En Corée du Sud, l'aide technologique nord-coréenne suscite toutes les préoccupations. Dernier jour officiel de la COP29 de Bakou, les négociateurs n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur un financement pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Illustration auprès de pêcheurs de la mer Caspienne dans le besoin.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, le Saint-Siège n'a aucun commentaire à faire sur le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Le cardinal Pietro Parolin rappelle ce matin à Rome que le seul intérêt recherché par le Saint-Siège est bien celui de la paix. Il n'est pas le premier à réagir à cette décision qui a provoqué la colère d'Israël mais aussi celle des États-Unis ou du dirigeant hongrois en Europe. Le Hamas concerné par le mandat d'arrêt contre le chef de sa branche armée salue une étape importante vers la justice, soulagement également du côté de la direction palestinienne. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
La direction palestinienne s'est félicitée de la décision de la Cour de justice internationale et a réaffirmé sa détermination à agir auprès de toutes les instances juridiques pour faire condamner ceux ayant commis des crimes contre le peuple palestinien. Le vrai défi à présent est de faire appliquer la décision. La présidence palestinienne a en conséquence appelé tous les États membres des Nations Unies à couper les contacts avec Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Elle appelle également à une action immédiate pour faire cesser, je cite, l'agression israélienne génocidaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem. La Cour internationale de justice avait au départ désigné trois dirigeants du Hamas comme auteurs de crimes le 7 octobre 2023, le numéro 1 du mouvement, Ismaïl Haniyeh, qui a été assassiné par Israël à Téhéran en août dernier, et Yahya Sinwar, qui est mort en combattant les troupes israéliennes dans la bande de Gaza. Reste Mohammad Daif, le chef de la branche armée du Hamas, qu'Israël a affirmé avoir tué, ce que le mouvement a démenti. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Parmi les nouvelles réactions à cette décision de la Cour pénale créée en 1998 par le statut de Rome, celle de la France, Paris affirme en prendre acte, Berlin l'examine consciencieusement. Quand l'Iran y voit la mort politique du régime israélien et la Chine qui appelle la Cour à avoir une position objective et juste. Israël ce matin annonce mettre fin à un régime de garde à vue illimité pour les colons de Cisjordanie. Les violences ont explosé dans ce territoire occupé depuis 1967. Au Liban voisin où les frappes continuent, au sud du pays et en banlieue sud de Beyrouth, ce sont près de 226 agents de santé qui ont été tués depuis le 7 octobre, annonce ce matin l'Organisation mondiale de la santé. Alors que de nouveaux appels israéliens à évacuer résonnent aujourd'hui au pays du Cèdre, les déplacements de population continuent. Depuis un mois maintenant, certains ont trouvé refuge dans un cinéma historique de Beyrouth, rénové par l'association Tiro qui cherche à démocratiser la culture Liban. Ce lieu permet en effet, à travers l'art, d'oublier la guerre en cours. Le reportage d'Apolline Convin.
Dans une cuisine couverte d'affiches de films, Kassem Istanbouli prépare à manger pour les 32 déplacés qu'il accueille au Colisée. Ce cinéma, en rénovation, devait ouvrir au public début octobre. Mais face à l'afflux de réfugiés, son gérant n'a pas hésité une seule seconde.
Mes potes, on a posté un message sur Facebook disant que tous ceux qui voulaient pouvaient trouver refuge au cinéma.
Les réfugiés dorment à même les banquettes en velours rouge. Et pour le directeur des lieux, c'est aussi à ça que doit servir la culture.
La culture est toujours importante, et spécialement dans un contexte de guerre. On doit résister culturellement. L'art, c'est la beauté, c'est la liberté.
Chaque jour, il organise des ateliers artistiques pour les déplacés. Il est aidé par Rafat Moawesh, 27 ans. Sa famille a fui le sud du Liban il y a un mois.
Par exemple, il y a un atelier que fait Kassem où les enfants peuvent s'exprimer en criant. Ça les aide à oublier ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti dans cette guerre terrible. Ces activités les aident psychologiquement.
Ce soir, un film sera diffusé pour les déplacés. 2 heures de répit pour oublier le bruit des bombardements qui font rage à quelques kilomètres de là. Beyrouth, Apolline Convin pour Radio Vatican.
Le Parlement ukrainien déserté par crainte de frappe russe. La chambre basse du pays vient d'annuler sa séance. Cela au lendemain de ce tir de missile balistique tiré par la Russie. Le Kremlin ce matin se dit confiant sur le fait que les États-Unis ont compris le message de Vladimir Poutine formulé hier à la télévision et par l'intermédiaire du tir. L'OTAN et l'Ukraine se retrouvent mardi prochain à Bruxelles pour évoquer la situation. Une situation suivie de près en Corée du Sud. Gouvernement et renseignement affirme que la Russie a fourni des missiles anti-aériens à la Corée du Nord en échange de l'envoi de troupes. L'engagement croissant de Pyongyang en faveur de Moscou pousse Séoul à faire évoluer sa position sur la guerre en Ukraine, n'excluant plus de livrer des armes directement à Kiev. À Séoul, Clément Le Breton.
Un mois après l'arrivée d'une dizaine de milliers de soldats nord-coréens en Russie, les autorités ukrainiennes et sud-coréennes confirment que ces soldats sont bien présents sur le front près de Koursk. Une intervention de Kim Jong-un dans le conflit qui chercherait en retour à acquérir des technologies de pointe et de l'expérience de combat pour ses troupes. Shin Won-sik, ministre de la Défense sud-coréen, a annoncé aujourd'hui que la Russie a envoyé du matériel anti-aérien à la Corée du Nord en remerciement de son implication dans l'invasion de l'Ukraine. Depuis le mois de juin dernier, Moscou et Pyongyang sont liés par un traité de défense mutuelle qui implique une assistance militaire en cas de conflit. Au-delà de la question militaire, la Russie pourrait également fournir à Kim Jong-un de précieuses ressources naturelles, comme du pétrole ou du gaz. La Corée du Sud dénonce évidemment cette alliance qui fait grandir les inquiétudes et l'instabilité sur la péninsule coréenne. Séoul a également souligné le renforcement de son côté de son alliance avec les États-Unis. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
Les États-Unis poursuivent leur diplomatie dans le Pacifique Sud. Le premier secrétaire américain à la Défense est en visite officielle aux îles Fidji. Une première sur l'archipel devenu enjeu d'influence régionale vis-à-vis de la Chine. Les petits États insulaires, parmi les plus vulnérables au changement climatique, attendent beaucoup du fonds financier discuté à la COP29, où la bataille des chiffres continue avant le projet d'accord final. La présidence de la COP proposant aujourd'hui une contribution des pays développés s'élevant à 250 milliards de dollars. Un enjeu majeur en Azerbaïdjan même, où le pays connaît une crise de l'eau sans précédent. La mer Caspienne, plus grande étendue d'eau intérieure au monde, a baissé de 3 mètres depuis 1995. Un drame pour les villages alentours, comme à Balıkçılar, où 95% de la population vit de la pêche depuis des générations. Un reportage signé Manon Chaplin.
Balıkçılar, littéralement le village des pêcheurs, c'est son nom, a perdu toute sa raison d'exister. Ces dernières années, l'eau de la mer Caspienne a reculé. Avec elle, les poissons ont migré. Le village, lui, a été déserté.
Avant, il y avait plus de 200 familles qui vivaient ici. Désormais, il n'y en a plus que 56. Il n'y a plus de poissons, donc il n'y a plus rien à faire. Les jeunes partent tous dans les grandes villes, à Bakou ou même en Russie et en Turquie.
Dans le salon de thé, une baraque désormais entourée de marécages, de vieux pêcheurs se rappellent l'époque où les vagues frôlaient encore les fondations de leur maison. Velia Galar raconte, il suffisait de lancer sa canne pour trouver du poisson.
Dans ce village, nous sommes tous nés pêcheurs. Notre chair est faite de poissons. Mon grand-père, mon père et moi-même, nous sommes pêcheurs. Mais mon fils, non, je ne le laisserai pas le devenir. C'est devenu le boulot le plus dur du monde.
À l'origine du phénomène, il y a la baisse des précipitations, bien sûr, il y a l'augmentation des températures, il y a surtout l'intensification des extractions d'eau pour irriguer les terres agricoles.
Et alors, que voulez-vous que l'on fasse? C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Qui sommes-nous pour y faire quelque chose?
Près de la Caspienne, quand la mer se retire, restent les légendes, comme celle d'un esturgeon d'une demi-tonne pêché dans les années 90, que se répètent ici tous les anciens. À Balıkçılar, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Le Saint-Siège qui, une nouvelle fois à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche qui a eu lieu hier, défend la protection des petits producteurs et la fin de méthodes prédatrices. Ce dimanche, solennité du Christ-Roi, le pape présidera la messe en la basilique Saint-Pierre à 9h30 et à l'occasion de la célébration des JMJ diocésaines, la croix des JMJ sera transmise des jeunes portugais aux Coréens, organisateurs des prochaines journées. En 2027, l'archevêque de Séoul sera présent. Et puis, remise du prix Ratzinger ce vendredi au Vatican à 17h. Cette année, un théologien irlandais et un sculpteur japonais. Ce matin avait lieu une messe sur la tombe du pape défunt Benoît XVI en présence de son ancien secrétaire particulier, Mgr Gensfein, reçu dans la foulée par le pape. Il est maintenant nonce apostolique dans les pays baltes. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre écoute et fidélité à notre antenne. L'actualité du pape, de l'Église et du monde revient sur nos ondes à 18h, présentée par Olivier Bonnel. Très belle journée.